Bonjour et merci d'écouter Questions politiques avec l'équipe du dimanche. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, Françoise Fressos du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Annie.
Vive le déconfinement et la liberté retrouvée, en tout cas la liberté surveillée, je le dis avec le sourire. Notre invité jusqu'à 13h, c'est l'un des proches du président de la République. Son rôle a été décisif pour la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron. Le sera-t-il de nouveau pour ce que certains appellent déjà l'acte 3 du quinquennat, celui qui reste à écrire après la crise du coronavirus? Quelle politique pour l'après, justement? On va en parler avec le président du Modem et maire de Pau, François Bayrou, pour réagir. Intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Et en direct depuis Pau, bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Vous êtes resté silencieux ces dernières semaines et pourtant vous êtes en première ligne pour évoquer la question du déconfinement et notamment sur le plan local, évidemment, sur le plan national, on va en parler. Petit bilan d'étape au bout d'une semaine. François Bayrou, diriez-vous que le déconfinement se passe bien en France ?
Oui, ce qui me frappe, c'est que, en effet, alors qu'il y avait les prévisions les plus catastrophistes... Pour l'instant, on peut avoir le jugement que ça se passe bien. Je suis frappé de voir, en tout cas c'est le cas dans notre ville, à quel point les gens, au fond, respectent bien les distances de sécurité,
oui.
Portent bien le masque, à quel point ils sont attentifs et soucieux de préserver les contacts, de préserver leur santé et celle des autres. Et je trouve qu'il y a une ambiance de mobilisation, de respect qui est très encourageante.
On vous sent surpris, François Bayrou, surpris de cette discipline collective, tout cas à Pau.
Non, pas du tout, parce que le fond de ma nature en général est d'être plutôt optimiste, alors que la plupart des gens sont plutôt sur des prédictions catastrophistes. Non, je ne suis pas surpris. Je trouve que c'est un peuple qui a du ressort. C'est un peuple, au fond, qui est capable de réagir, d'agir, de s'organiser beaucoup plus spontanément et, à mon avis, beaucoup plus efficacement que si c'était simplement en obéissant à des consignes.
On va y venir, justement,
Qu'il y a dans le fond de notre peuple un extraordinaire potentiel pour faire face aux défis. Et celui-ci est naturellement un des plus importants qu'on ait eu à rencontrer.
On a vu ces scènes d'indiscipline, pour le coup, dans la capitale, avec beaucoup de personnes qui s'étaient réunies près du canal Saint-Martin, sur les berges de la Seine. Est-ce que c'est le cas aussi sur les bords du Gave de Pau ?
Non, pas du tout. Mais vous savez... Je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir de jugement péjoratif et à ne pas jeter la pierre. Ça n'est pas la même chose d'être confiné dans une ville comme Pau, qui est la ville de France qui a le plus d'espace vert par habitant, ou d'être confiné dans une maison avec un jardin, ou d'être confiné dans un immeuble avec autour de l'espace, et puis de l'être dans une toute petite surface avec un nombre de résidents plus important et dans une ville qui n'offre pas beaucoup d'espace de cet ordre. Et donc, je trouve que oui, bien sûr, il y a des scènes qui peuvent apparaître choquantes. Il faut que tout le monde soit appelé à la discipline et au respect des choses, mais il faut peut-être qu'on les aide aussi. Moi, je vais peut-être vous surprendre, c'est que je trouve qu'on devrait ouvrir les parcs et jardins. Je trouve que si l'on veut bien regarder ce qu'a été l'épidémie, la contagion, alors on s'aperçoit que la contagion, elle est beaucoup plus forte lorsque vous êtes dans des espaces fermés que si vous êtes en plein air. Et le président de la République me disait l'autre jour qu'il avait été frappé par le fait que c'est à bord du Charles de Gaulle, donc dans un espace clos avec circulation de l'air intérieur, qu'il y a eu une des contagions les plus frappantes, puisque un tiers, oui. 30% des marins ou un peu plus ont été atteints. Donc je trouve que l'idée de considérer, l'idée que je voudrais défendre, c'est qu'on considère les espaces verts et les espaces ouverts comme des espaces qui sont plus en sécurité. On peut s'y promener, on peut marcher, on peut même courir. L'essentiel est d'éviter les contacts. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce serait bien qu'on fasse un pas vers l'ouverture de ces espaces et au fond vers l'idée que être en plein air, c'est d'une certaine manière préserver les chances et faire reculer l'épidémie.
Nathalie Sacric, puis Karine Bécart, question de Nathalie.
Alors justement, même si on ne vote pas dans un espace vert, vous qui vous étiez opposé à ce qu'on maintienne le premier tour, est-ce que là vous considérez comme les 36 maires qui signent un texte dans le journal du dimanche, eh bien bah, qu'il faut voter fin juin et comme ça ce sera réglé?
Si on peut, sanitairement, s'il n'y a pas de rebond de l'épidémie, si on n'est pas devant une contrainte extrêmement forte qui soit une contrainte du point de vue de la contagion, alors je pense que la raison, c'est de voter fin juin. Comme vous savez, vous venez de le rappeler, moi je m'étais opposé au premier tour parce que vous voyez qu'il y avait une contradiction absolue entre le fait que on ferme les bars et les restaurants, on interdise les rencontres, et puis en même temps, on demandait aux gens de rester chez eux, surtout lorsqu'ils étaient dans la tranche d'âge supérieure. Et en même temps, on les invitait à aller voter. Il y avait là une contradiction absolue. Alors on connaît exactement cette histoire, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est en situation d'inviter les Français à reprendre autant que possible une vie ouverte. Simplement, il faut des précautions. Il faut que les attentes dans les bureaux de vote aient lieu à l'extérieur. C'est ce que je viens de dire pour le grand air. Il faut qu'il y ait du gel hydroalcoolique, il faut qu'il y ait des masques obligatoires. Et donc, on aide à fournir des masques. Et puis, à ce moment-là, on votera. Et cette séquence se clôturera. Et il en est le plus grand besoin. Pourquoi ? Parce que on a besoin que les collectivités locales soient partie prenante de la relance ou du nouveau départ du pays.
Juste une toute petite question. Il était prévu éventuellement un débat à l'Assemblée, puis manifestement entre Gérard Larcher et tous les Républicains, tout le monde a considéré que c'était pas utile. Vous en pensiez quoi ?
Bon, je pense que c'est une responsabilité de l'exécutif, mais je comprends très bien ce que le Premier ministre avait à l'esprit en demandant un débat, parce que le nombre de gens qui ont dit blanc jusqu'au premier tour et qui ont dit noir après le premier tour, en s'indignant...
Oui, ils étaient nombreux.
...en apparence des décisions qui avaient été prises, c'était une manière de demander à chacun de prendre ses responsabilités. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un pays où les oppositions prennent facilement leurs responsabilités lorsqu'il s'agit de partager, d'être co-responsable des décisions.
Françoise Fressoz.
Oui, ce qui me trouble un peu, c'est l'optimisme de votre ton et celui aussi des gouvernements qui, après nous avoir strictement confinés et nous avoir dit « attention, les risques liés au déconfinement sont très importants », là, on envisage ouverture des parcs et jardins, vacances d'été,
élections. Non, c'est pas on envisage, c'est moi qui plaide.
Une deuxième vague d'épidémie en juin.
François Bayrou. C'est tout à fait possible et c'est à craindre. Mais regardons les choses en face. On ne peut pas maintenir un pays sous cloche. On ne peut pas maintenir un pays entièrement bloqué et fermé. Et en même temps, assumer 100% de la vie du pays, des indemnités, du chômage partiel, de l'aide qu'on doit apporter aux gens... Tout ça, c'est impossible. Il y a un moment où, naturellement, après avoir ralenti l'épidémie et, pour ainsi dire, être arrivé au seuil de non-contagion qu'on voulait atteindre, je ne dis pas que ça soit définitif. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, les épidémiologistes eux-mêmes n'en savent rien. C'est frappant de voir à quel point on entend des messages dans tous les sens contradictoires entre eux. Donc il faut observer, être prudent et avoir une orientation, une détermination. C'est que si quelque chose ne va pas, on le changera. Ça n'est pas parce qu'on prend une décision d'ouverture que cette décision d'ouverture, elle ne sera jamais remise en question. On est devant un problème inédit. Enfin, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une épidémie, hein, causée ou provoquée par un virus. Mais vous voyez bien, on doit être en situation d'observation et de prudence. C'est cela qui doit être l'attitude des gouvernants. Et quand je dis gouvernants, moi je ne parle pas uniquement du gouvernement, du président de la République, mais je parle de tous ceux qui ont une responsabilité dans la société, c'est-à-dire à peu près chacun des citoyens.
Bien sûr, et puis notamment évidemment les élus locaux, justement Karine Bécart.
Oui, finalement, cette crise, ce qu'elle nous a montré, François Bayrou, c'est que l'État ne peut pas tout. Et ce qu'on observe depuis plusieurs semaines, c'est que les vraies solutions se tricotent mieux en général au niveau local, au niveau des maires comme vous, au niveau des régions également. Donc, vous qui êtes le maire de Pau, François Bayrou, que dites-vous ? Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux collectivités ? Est-ce qu'il va falloir oser y aller ? Est-ce que l'État français doit se transformer pour devenir un pays finalement moins décentralisé ?
Vous m'ouvrez une porte que j'aime bien voir ouverte et que je plaide depuis très longtemps. Alors je vais dire pour vous ce que je crois le plus profondément. Je pense que l'organisation administrative et politique de la société française est infiniment trop centralisée, infiniment trop bureaucratique, infiniment trop engoncée et qu'elle ne fait pas suffisamment de place à l'initiative locale ou des entreprises ou des associations. Je pense que notre mode d'organisation vient de montrer, spécialement dans ces problèmes de santé. Et quand vous comparez avec des pays voisins, vous voyez que j'ai évidemment l'Allemagne à l'esprit, mais ça n'est pas le seul, alors vous vous apercevez que cette organisation-là, en réalité, nous empêche de déployer le potentiel qui est celui du peuple français, de notre pays.
Mais ça évite aussi des inégalités de traitement entre des citoyens, entre différentes villes. Certains maires, par exemple, voulaient rendre le masque obligatoire dans tous les espaces publics et dans les rues. Ça n'a pas été possible, ou en tout cas ça a été refusé.
Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Du point de vue juridique. Non, vous venez de prononcer une phrase qui est très intéressante. Vous dites ça évite les inégalités de traitement. Je crois exactement le contraire. Si vous regardez, il y a ce matin une tribune dans le journal du dimanche des responsables de santé, des médecins de Seine-Saint-Denis. Je ne crois pas qu'il y ait égalité de traitement entre la Seine-Saint-Denis et d'autres agglomérations de notre pays, d'autres grandes villes de notre pays. Il y a on a un immense besoin de retravailler la question de l'équilibre entre les territoires et précisément d'une certaine égalité des chances ou égalité des traitements. Je vous assure que quand vous êtes très éloigné de Paris, 850 kilomètres pour nous à Pau, et je vous assure cependant que c'est en France et qu'on est civilisé, ou à peu près en tout cas, que ça y ressemble.
On en est convaincu.
Que ça y ressemble. Eh bien, vous vous apercevez que vous restez à l'écart. On vous laisse volontiers à l'écart. Par exemple, on vient d'apprendre que Air France se proposait, quand les vols reprendraient à partir du 15 juin, de proposer à Pau, écoutez bien, accrochez-vous, deux vols par semaine à destination de Paris. À mon avis, il y a au moins 80 ans que l'aéroport de Pau était relié à Paris par plusieurs vols par jour. Les derniers chiffres, c'est qu'on avait 12 liaisons par jour avec Paris. Ça se comprend très bien parce qu'en train, c'est 4 heures et quart. Et sans lever un sourcil, sans qu'il y ait de l'émotion parmi ceux qui font des propositions de cet ordre, on vous dit, mesdames et messieurs, vous aurez deux vols par semaine, un le lundi matin et un le vendredi matin. Merci, mon prince. Merci, Monseigneur. Franchement, vous êtes trop généreux. Et donc, il y a, il y a toute une partie de notre pays, de ce qu'on appelle avec condescendance la province, qui n'est pas plus province que les autres, qui se trouve en effet largement abandonnée. Et ne croyez pas que ce soit uniquement ceux qui sont éloignés de plusieurs centaines de kilomètres de Paris, mais c'est la vérité dans la ceinture autour de Paris. Et c'est probablement d'ailleurs vrai aussi dans un certain nombre d'arrondissements périphériques à Paris. Cette organisation qui concentre tous les pouvoirs, tous les centres de décision, sur quelques hectares, sur les rives de la Seine, c'est une faiblesse pour la France, parce que ça empêche que puissent s'affirmer les volontés qui sont agissantes et qui pourraient être puissantes.
Mais François Bayrou, expliquez-nous ce qui s'est passé, parce que Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir en mai 2017, il est favorable à plus de décentralisation. Il était pour ce pacte girondin qu'il avait présenté à l'été 2017. Et puis finalement, là, en ce moment, quand on l'entend parler, il est plus dans un registre de se rétracter, dans une recentralisation que dans une décentralisation. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit et vous, qu'est-ce que vous essayez de lui dire ?
Alors, je ne crois pas du tout que votre diagnostic soit vrai. Je pense exactement le contraire. Alors, pardonnez-moi, je vais le dire de manière brute.
Allez-y.
Pour ne pas dire brutale, le président de la République a été élu sur une immense demande de changement de l'organisation des pouvoirs en France. Et il a constamment eu à l'esprit cette attente-là. La preuve, c'est qu'il a lancé, après les Gilets jaunes, une démarche pour que la haute administration, la sélection des, entre guillemets, élites, puisse se faire de manière différente. Mais il se trouve que la résistance de ces organisations est très grande et que, pour l'instant, en effet, il n'a pas pu assumer ou il n'a pas pu imposer cette vision-là. La plupart des Français disent « mais il est président de la République, donc il peut ». Ça ne se passe pas comme ça. Le président de la République, c'est tout à fait nécessaire parce que toutes les communautés humaines ont besoin de quelqu'un qui les entraîne, sans exception. Cette mission qui est la sienne, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être portée, elle a besoin d'être encouragée. Et pour l'instant, étant donné l'organisation de ses pouvoirs, eh bien, il a rencontré plus de résistance qu'on aurait dû s'y attendre. Tout a été raison de blocage, mais je puis attester, en tout cas, dans les conversations que j'ai avec lui, quotidiennement, c'est une préoccupation pour lui. Quotidiennement, j'allais dire, c'est un espoir pour lui. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé les moyens, il n'a pas trouvé les moyens, nous n'avons pas trouvé les moyens de porter ce grand changement dont la France a le plus grand besoin.
Oui.
Si j'avais à dire ce que sont les deux grands besoins de la France, le premier, on vient de l'évoquer longuement, c'est le besoin de trouver une organisation différente qui fasse que le centre du pouvoir ait davantage confiance dans le terrain. On dit toujours il faut donner des pouvoirs supplémentaires. Je ne crois pas du tout ça. Je pense qu'on en a des pouvoirs. En tout cas, le maire d'une ville importante que je suis, capitale de province, sait qu'il a des pouvoirs. On demande une chose, c'est qu'on puisse les exercer, qu'il n'y ait pas constamment cette emprise trop souvent bureaucratique qui fait qu'il y a des limitations à ses pouvoirs. Mais en disant ça, je parle aussi de l'hôpital, par exemple. Le fait que beaucoup, beaucoup de soignants aient le sentiment qu'ils sont ensevelis sous des tâches administratives qui ne sont pas autre chose que des tâches de contrôle, que l'organisation appelle toujours à faire remonter la décision et jamais à la rapprocher du terrain, pour moi, c'est une grande faiblesse du pays. Et il y a une deuxième grande faiblesse du pays.
Laquelle ?
C'est l'incapacité dans laquelle nous sommes depuis longtemps d'avoir recherché une prévision efficace sur l'avenir et une mise en batterie si nous rencontrons des problèmes prévisibles.
Alors justement,
vous savez, il y a un vieux proverbe français qui dit « gouverner, c'est prévoir ».
Oui.
Et je crois exactement cela, devant cette épidémie, mais pas seulement. Devant tous les problèmes que nous rencontrons, il y a des décennies que nous avons abandonné cette volonté de trouver, de discerner les problèmes que nous pouvons rencontrer et d'avoir un plan ou une stratégie pour y répondre. On l'a très bien vu avec les masques. Le fait que
on va y revenir
sur
dans
les
le
derniers
détail, justement.
10 ans.
François oui, Bayrou, vas-y. Sur cette question des masques, on va en parler. Mais puisque vous parlez des perspectives d'avenir, justement, Françoise Fressos voulait vous interroger sur ce sujet, puisqu'il faut d'ores et déjà se projeter dans l'avenir, essayer d'imaginer quelque chose comme un après, Françoise.
Oui, la grande question, c'est qu'au fond, on a vu une énorme défiance à l'égard des gouvernants, et notamment d'Emmanuel Macron, au moment où vous-même vous diagnostiquez le fait que le principal blocage, c'est la bureaucratie, c'est le mauvais fonctionnement de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance, d'ici la fin du quinquennat, de faire voler ces blocages, parce que on est dans une situation inédite, et à quelles conditions cela peut-il se produire ?
François Bayrou.
Alors, Françoise Fressos, ce n'est pas en termes de chance qu'il faut analyser cette question. C'est en termes d'obligation. Si nous ne changeons pas notre mode d'organisation, si la France n'est pas saisie par une volonté de renouveau profonde et qui s'appuie sur le potentiel de notre peuple, qui s'appuie sur ses attentes, ses aptitudes, sa capacité à inventer et à répondre, si on ne saisit pas cette chance-là, alors on va avoir de très graves difficultés, très graves difficultés. Ce que je vois venir, c'est, hélas, ça paraît à peu près certain, une immense crise économique qui va entraîner une immense crise sociale et qui peut entraîner une immense crise démocratique.
Donc ce que vous voyez, c'est une menace d'appauvrissement général.
Et donc, on a absolument besoin, c'est une urgence, c'est une nécessité, c'est une obligation, on a absolument besoin de remettre à plat l'organisation de notre pays et l'organisation des pouvoirs dans notre pays, les étages différents dans lesquels se perd le fleuve de la volonté du pays, on a absolument besoin de simplifier, on a absolument besoin de raccourcir les chaînes de décision et on a absolument besoin de faire confiance au terrain. Comme on a vu que c'était obligatoire dans les crises, ce qu'on vient de vivre là, qu'est-ce que c'est ? C'est une immense crise mondiale, une pandémie mondiale, en face de laquelle l'État s'aperçoit qu'il est bien obligé de faire confiance aux maires, qui sont l'autorité légitime choisie par les citoyens sur le terrain.
Ouais.
Et ceci est incroyablement significatif de ce que nous avons à faire.
Nathalie Sacré. Bon,
alors, oui, mais comment on le fait justement ? Parce que s'il faut renouveler, rebooster, d'abord, il n'y a pas beaucoup de temps, deux questions simples. Comment Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu local et qui a très peu de confiance, à qui les Français font très peu confiance, peut-il le faire ? Et comment ça se passe concrètement ? On remanie, on fait un truc d'union nationale, on change Édouard Philippe, on associe, on fait 150 Grenelles. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à partir de demain ?
François Bayrou.
Nathalie Saint-Cricq, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas président de la République.
Non, mais vous pouvez avoir des idées quand même, vous aurez pu, vous avez essayé. Donc...
J'aurais pu, mais il se trouve que ça n'est pas ma responsabilité. Moi, je sais deux choses. La première, c'est qu'il faut que le président de la République, parce que c'est à lui que ça revient, porte, présente aux Français un nouveau modèle d'organisation de la société française et des pouvoirs dans la société française. Il faut qu'il dise de la manière la plus explicite et la plus claire, la plus simple, parce que c'est simple, parce que c'est une question simple, comme toutes les grandes questions historiques. Donc c'est une question simple, il faut qu'il dise aux Français ou avec les Français ce qu'il croit nécessaire pour cette nouvelle ère dans laquelle nous devons...
Mais c'est
entrer.
Institutionnel, c'est...
Et la deuxième chose, c'est tout, c'est l'organisation des pouvoirs, c'est la manière dont ça fonctionne, et c'est la confiance qu'on doit retrouver.
Donc on fait un référendum.
En laissant les gens agir. J'ai pas dit ça. Et je ne veux pas le dire, parce que c'est beaucoup trop tôt. Et il y a une deuxième chose, il faut que la France mette en place une capacité de se doter d'objectifs sur les crises prévisibles et sur les changements qu'on est en train de vivre. En réalité, depuis des décennies, on est uniquement dans le constat des orientations qui sont prises, pour simplifier, par le marché, par les initiatives individuelles et d'entreprises, ce qui est très bien. Je pense qu'il faut aussi qu'un grand pays se dote d'objectifs.
Comment imaginer l'avenir, François Bayrou, quand on doit supporter une dette qui n'a jamais été aussi élevée, non seulement en valeur absolue, mais à proportion du produit intérieur brut et de la richesse française? Comment imaginer l'avenir et comment inventer des lendemains plus heureux quand on n'en a tout simplement pas les moyens?
Alors, vous savez à quel point je me suis battu sur ces questions de déficit et de dette. Et je me suis battu sur ces questions depuis 15 ans, avec une certitude, c'est que si nous voulions, le moment venu, dans un moment grave, avoir des capacités d'intervention, alors il fallait préparer ces capacités d'intervention. Ça n'a pas été fait, on en a été incapable. Tout gouvernement confondu et tout gouvernement successif confondu, on en a été incapable. On se trouve devant une solution, devant une situation qui est en effet une situation difficile. Alors, moi, je pense qu'il faut, là encore, un plan, un projet. Et ce projet, pour moi, il est très simple. Il s'agit de considérer que la dette due à cette épidémie n'est pas une dette ordinaire. Aucun des pays qui sont atteints, aucun, pas même la Chine, n'est responsable de la naissance de cette épidémie en dehors des complotismes. C'est une mutation de virus comme il s'en produit dans l'histoire de l'humanité et probablement dans l'histoire biologique de la Terre depuis très très longtemps. Et donc, personne n'est responsable. Tout le monde a eu à faire face à un tsunami. Et ce tsunami-là, il nous a placés dans une situation de très grave crise et de très grave mise en cause de tout ce qui faisait les cadres de notre vie et notamment de notre vie économique. Donc personne n'est responsable.
Donc il faut effacer la dette.
Et nous allons avoir besoin, deuxièmement, nous allons avoir besoin de très importants investissements pour en sortir. Ces investissements, ce sera de l'emprunt, ce sera de la dette. Je propose qu'on analyse très précisément, à l'euro près si on le peut, ce que cette crise nous impose d'emprunter. Quel est le montant de la dette qu'on va devoir mettre en œuvre pour redresser nos pays, parce que je ne parle pas seulement de la France, bien sûr, et que cette dette, on la cantonne. Et qu'on puisse alimenter cet emprunt, qu'on puisse réaliser cet emprunt avec un différé d'amortissement de 10 ans. Qu'on puisse dire, voilà, on va devoir dépenser. On n'annule en rien la dette antérieure, parce que c'est comme ça qu'on peut faire face à sa responsabilité. Mais cette dette
due au Covid... Mais c'est surtout une condition
pour
pouvoir emprunter.
Cette dette due au Covid, on va la cantonnée et on la remboursera avec un différé d'amortissement de 10 ans.
Alors justement, François Bayrou.
Et les organisations internationales, je pense à la BCE, mais on pourrait penser à la Commission européenne, sont là pour permettre aux pays d'assurer les conditions de leur redressement. Donc, un, la dette, elle n'est la faute de personne, parce que la situation n'est la faute de personne. Deux, on a besoin d'emprunter. Trois, on doit pouvoir emprunter en ayant 10 ans devant soi pour commencer à rembourser cette dette-là.
Françoise Fressoze.
Alors ça, c'est votre proposition, mais ça suppose que tous les pays, en tout cas concernés, soient d'accord. Est-ce que, dans le cas où l'Europe ne se remettrait pas d'accord, est-ce que vous craignez une reprise de la crise des dettes souveraines telle qu'on a pu la connaître en 2011, vous savez, où il y avait eu l'attaque contre les pays faibles, et puis la France aussi s'était trouvée dégradée, et on voyait au fond se creuser le fossé entre la France et l'Allemagne. Est-ce que, par rapport à la situation européenne actuelle, vous avez cette crainte ou vous pensez qu'on peut quand même s'en sortir collectivement ?
François Bayrou.
Cette crainte, pour moi, elle est immense, ou la menace est immense, et ça n'est pas une menace à écarter du revers de la main. Je crois que c'est la première fois dans mon engagement politique, qui date de quelques années, que j'ai en effet cette crainte de l'éclatement, notamment de l'éclatement de la zone euro. Heureusement, j'ai le sentiment que les conversations entre le président de la République française et la chancelière allemande font un peu bouger les choses. Je pense qu'il y a des éléments qui permettent de penser qu'Angela Merkel est moins prisonnière de la situation dogmatique qu'un certain nombre d'organisations en Allemagne ou de tribunaux en Allemagne voudraient faire naître. Je pense qu'elle a le sentiment justifié que si l'euro se cassait, ça ne serait pas seulement une menace pour la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays ou la Belgique. Si l'euro se rompait, ça serait une menace considérable pour l'Allemagne. Parce que dans ce cas-là, la monnaie allemande exploserait à la hausse et les capacités d'exportation allemande seraient profondément atteintes. Donc c'est une menace pour tout le monde. J'espère qu'on conjurera cette menace. Mais quand vous dites que sur le projet que je viens d'exposer devant vous, il faut l'accord des autres, non. Si nous obtenons ce différé d'amortissement que je pense nécessaire pour redresser le pays, 10 ans pour remettre les choses en place et commencer à rembourser ce qu'on aura emprunté et qui sera très important. Moi, je vois des chiffres plus importants que ce que tout le monde dit. Hein.
C'est quoi vos chiffres ?
Moi, je pense que c'est au bout du compte une situation qui imposera un investissement de l'ordre de plusieurs centaines de milliards. Entre 400 et 600 milliards, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire à peu près entre 20 et 25% du PIB du pays.
Ce qui est absolument considérable.
À mobiliser sur plusieurs années. Ce qui est considérable, mais ce qui est vital.
Justement, François Bayrou.
Oui.
Non, je vous laisse terminer, mais justement à propos d'Europe, comment imaginer une politique européenne quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, face à la crise du coronavirus, les réponses des Européens ont été des réponses différentes entre les différents pays, et que là, aujourd'hui encore, on voit par exemple qu'en Italie, la décision a été prise de permettre aux Européens de venir en Italie, d'y passer des vacances pour relancer le tourisme, que ce sera possible dès le 3 juin. L'Espagne n'en veut pas. La Suisse veut rouvrir ses frontières avec la France le 15 juin, mais la France n'y est pas encore prête, ou en tout cas n'a pas de discours clair. Comment imaginer, oui, un avenir commun, et là je parle uniquement de la zone Schengen, entre des États qui ne voient pas le même intérêt les uns les autres ?
L'Union européenne, l'organisation des États européens, ça ne veut pas dire qu'on est tous du même avis. Mais ça veut dire une chose précise, c'est que devant l'immensité des menaces, on décide d'agir ensemble. Pas tous de la même manière, on ne va pas n'avoir plus qu'un seul type de décision, quels que soient les pays et quelles que soient les circonstances. Comme je plaide pour la confiance au terrain en France, je plaide pour la confiance au terrain aussi dans l'ensemble européen. Mais les instruments ou les armes dont nous avons à nous doter pour faire face à l'ampleur des menaces, alors ça, oui, nous devons les définir ensemble. Et oui. Pour répondre précisément à la question que vous avez posée, oui, moi je crois qu'il y a une menace énorme sur l'Union européenne. C'est même la première fois, je vous le disais, que de ma vie je le crains. Oui. Je trouve que si des pays ou des groupes de pays décident de ne jouer que leur intérêt à courte vue, mal compris selon moi, encore une fois, entre les pays exportateurs et les pays importateurs, il y a une communauté d'intérêts, parce que s'il n'y a plus de gens pour vous acheter les produits que vous produisez, alors vous ne les produirez plus. Donc tout ceci, cette manière de regarder les choses à courte vue est absurde.
Oui, mais qui mettez-vous en cause, François Bayrou? François Bayrou, qui mettez-vous en cause clairement? Vous dites certains pays, certains. C'est qui?
Vous venez de voir une décision de la,
les Allemands.
De la justice allemande.
De la Cour de Karlsruhe, d'accord.
De la Cour de Karlsruhe, comme on a l'habitude de dire, qui a, au fond, enjoint à la Banque Centrale Européenne de ne pas prêter, comme elle le faisait,
libéralement. Quels sont les maillons faibles gouvernementaux? Quels sont les maillons faibles gouvernementaux? Quels sont les pays qu'il faut convaincre et qu'il faut entraîner? Vous avez été très élogieux vis-à-vis d'Angela Merkel, qui est dans une situation de politique intérieure extrêmement compliquée. Il faut avancer avec qui et traîner avec nous? Quels pays?
François Bayrou.
Mon ton n'est pas le ton de l'éloge. Ce que je vois, c'est que contre une partie de son opinion publique et contre une partie des décideurs allemands, Angela Merkel semble prendre la direction de résister à ces pressions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une observation qui, en effet, pousse à l'optimisme. Il y en a une deuxième, c'est que parmi les chefs d'État et de gouvernement européens, le plus déterminé sur ce sujet, même s'il n'a pas toujours réussi, c'est le président de la République française. On a une parole en Europe. Je ne dis pas qu'elle soit suivie par tout le monde, très loin de là. Mais on a une parole en Europe qui compte et qui montre une direction. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt encourageant. Mais c'est un immense combat politique. Et c'est un immense combat politique qui ne se gagnera pas si on n'y associe pas les citoyens. Pour l'instant, ce qui est frappant, c'est qu'on est dans des jeux diplomatiques. Qu'est-ce que c'est un jeu diplomatique? C'est des débats, des questions qui sont agitées, des rapports de force, mais à l'abri de l'opinion publique. Personne n'en est saisi. Vous n'avez pas entendu de déclaration très, très importante sur ce sujet. Moi, je suis partisan d'associer l'opinion publique et d'associer les citoyens à ces grandes questions-là.
Mais comment les associer, à part dans les enquêtes d'opinion, où l'on voit que les citoyens ne font pas confiance à l'exécutif pour gérer cette crise?
Oui, mais je ne crois pas du tout ça. Je n'ai pas ce sentiment, même je trouve les chiffres assez hauts. Encore ce matin, il y a une progression
4 sur 10.
De 5 points. Bah, 4 sur 10, c'est pas loin de la majorité dans un pays comme la France. France qui est assez naturellement bougon, assez naturellement à rouspéter ou à être en désaccord avec ses dirigeants, quels que soient les dirigeants et quelles que soient les couches successives de dirigeants qu'on rencontre. Hein. C'est pas en France que vous trouvez l'adhésion maximale lorsque on prend des décisions, notamment des décisions difficiles. Ceci est classique. Mais sur le fond, je suis absolument persuadé que les Français, comme d'autres, et d'ailleurs les chiffres de ce point de vue-là ont évolué positivement, les Français, comme d'autres, savent que tout seul, on n'en sortira pas. Que tout seul, alors nous serons abandonnés à la loi des autres. Ça fait des années que je suis profondément blessé par le fait qu'on accepte que, par exemple, les États-Unis décident pour le reste du monde. Le jour où les États-Unis décident qu'on va imposer des sanctions à l'Iran, par exemple, Ça s'applique à toutes les entreprises du monde, même ceux qui sont le plus en désaccord avec cela. Parce qu'ils ont monté un système dans lequel leur monnaie, dollar, joue un rôle si important que forcément les échanges passent par le dollar. Ils ont voté une loi qui dit tout type ou toute entreprise qui passe par le dollar, il relève des lois américaines et s'il ne les applique pas, on peut l'envoyer en prison ou lui infliger des milliards de dollars d'amende. Personne ne s'en émeut. On n'en parle pas. On fait comme si on ne pouvait pas faire autrement. Et quand il m'est arrivé d'en parler avec des dirigeants de très grandes entreprises françaises qui étaient frappés par cette oukase, ils disent on ne peut pas faire autrement.
On va revenir en France.
Je sais bien, on revient en France, mais je veux simplement dire que ce déséquilibre-là, qui fait que notre destin, notre souveraineté, est abandonné à la décision de la puissance américaine, est pour moi, comme citoyen, comme individu, absolument insupportable, absolument à rejeter. Et tant qu'on n'aura pas posé ce genre de question, qui est la question de la souveraineté, et franchement, celui qui en parle actuellement, c'est le président de la République, c'est de notre destin qu'il s'agit, et c'est à nous de décider de notre destin, et pas à d'autres de décider à notre place. Et donc ça passe évidemment par la construction, l'édification d'une Europe qui décide d'être maître de son avenir.
Quand est-ce qu'il faudra rouvrir les frontières françaises, justement? C'est une décision souveraine. Quand faudra-t-il la prendre? Est-ce qu'il faudra le faire rapidement comme les Italiens ou ne pas l'envisager comme les Espagnols?
C'est une décision sanitaire, pas une décision politique. C'est une décision qui doit s'appuyer sur les risques et les faits de cette épidémie. Et si on peut le faire en sécurité, plus tôt on le fera et mieux ce sera.
Et donc les Italiens sont allés trop vite, d'après vous ?
Mais les Italiens, ils sont pris à la gorge. Le confinement en Italie a été beaucoup plus dur qu'il ne l'a été en France. Et toute l'économie du pays, l'économie industrielle, en particulier dans le Nord, a été la première frappée parce que c'est dans le Nord de l'Italie que s'est déclenchée l'épidémie pour des raisons sanitaires, alors que c'est un pays qui a un équipement hospitalier, le Nord de l'Italie, très important, au plus haut niveau. Le reste de l'économie italienne, le tourisme joue évidemment un rôle très important.
13%.
Et vous vous trouvez devant un pays qui est étranglé, qui est soumis au risque d'asphyxie. Et donc, il faut nécessairement ouvrir. Encore n'ont-ils pas les sécurités que nous avons en France. Hein. Ceux qui se plaignent régulièrement de la société française et des problèmes sociaux, il n'y a pas un pays qui ait déployé un filet de sécurité par le chômage partiel aussi important que celui qu'a fait la France.
Alors justement,
les États-Unis
voulaient vous interroger sur la question sociale.
Les États-Unis viennent de passer à 15% de chômage sans sécurité.
Oui.
Et les soins aux États-Unis, si vous n'avez pas la carte bleue à la place de la carte vitale, vous ne pouvez pas obtenir les soins nécessaires pour rester en vie.
Karine Bécard.
Et en même temps, on sent bien que tout n'est pas rose malgré tout sur la question sociale en ce moment en France. On sent même beaucoup de tensions de plus en plus. Je voudrais revenir d'ailleurs sur la visite d'Emmanuel Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière vendredi. On a vu ces tensions vraiment entre le personnel soignant et le président, et plus globalement, on a vu qu'il n'y avait plus du tout de retenue de la part des Français vis-à-vis de leurs responsables politiques. Donc, qu'est-ce que vous dites, François Bayrou, que tout pourrait maintenant très vite, très très vite déraper, et surtout, est-ce que vous avez des solutions pour faire baisser cette pression, cette tension qu'on sent inlassablement monter ?
Bon, d'abord, j'espère que votre vision est très peut-être moins optimiste, moins pessimiste que ce que vous avez exprimé. Non, le président de la République est en première ligne. Alors vous dites qu'il y a moins de retenue. Franchement, il y a 10 ans, il y a 15 ans, que la retenue que vous évoquez n'existe plus. Souvenez-vous des manifestations innombrables, de la manière dont les Français s'adressaient à Nicolas Sarkozy, s'adressaient à François Hollande. Le président de la République, en raison de nos institutions et des besoins du temps, le président de la République est en première ligne. C'est lui qui incarne l'orientation du pays, c'est lui qui la porte, et il a décidé qu'il ne se cacherait pas, qu'il ne s'échapperait pas. Il a multiplié les voyages, les rencontres, les occasions de discussion avec le pays. Il l'a fait pendant toute la crise des Gilets jaunes et il le fait là. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Parce que s'il se cachait, s'il se planquait, comme on dirait entre guillemets, alors les Français seraient en droit de le lui reprocher. Et c'est lui qui, en effet, a choisi la date du 11 mai. Et à mon avis, il a bien fait, parce que je ne vois pas qu'on pouvait maintenir le pays enfermé pendant plus longtemps. Donc, il prend des risques.
Vous pouvez ouvrir mon micro, s'il vous plaît ?
Pardon ? Votre micro est ouvert, Karine, mais...
Est-ce que justement, il n'a pas tout essayé ?
On vous entend, Karine.
Merci. Est-ce qu'il n'a pas tout essayé ?
Vous êtes dans votre cuisine ?
Dans votre... Non, je ne suis pas dans ma cuisine. Je suis dans mon salon. Est-ce qu'il n'a pas tout tenté déjà, Emmanuel Macron ? Il a tenté la démocratie participative avec le grand débat. Il a tenté la démocratie démocratique, parce que, représentative, parce qu'on a voté là. Il y a eu de la concertation sociale, il y a eu du dialogue social avec les syndicats au moment des retraites. On a l'impression qu'il a utilisé finalement tout ce qui existait pour garder le lien avec les Français, mais que ce lien... Malgré tout, effectivement, j'ai peut-être des propos plus pessimistes que les vôtres, que ce lien est vraiment en train de s'effilocher sacrément et sérieusement. Donc, est-ce que vous avez des solutions ? Parce que c'était ça ma question. C'est-à-dire, comment on fait pour le recréer, ce lien, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui ?
François Bayrou.
J'ai connu à peu près tous les derniers présidents de la République. Et ils ont tous eu le sentiment que ce truc, c'était le rocher de Sisyphe. Hein, que, vous savez, Sisyphe, il monte le rocher jusqu'au sommet de la montagne et puis il le pose. Et à ce moment-là, le rocher dévale la montagne et il faut recommencer. Mais c'est parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons en sont là. Et c'est parce que la France n'a pas construit, le réseau de responsabilités qui fasse que tout ne repose pas sur les épaules d'un seul homme. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de chef, qu'il ne faut pas de leader, qu'il ne faut pas de responsable. Je pense exactement le contraire. Je dis souvent que le seul point sur lequel j'ai changé d'avis dans toute ma vie en politique, c'est celui-là. Quand j'étais jeune, j'étais autogestionnaire. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de chef, qu'on pouvait se débrouiller très bien. Et puis la vie m'a montré qu'on a absolument besoin d'un responsable.
Et justement, Emmanuel Macron rendait hommage aujourd'hui au général de Gaulle. Finalement, François Bayrou, vous êtes devenu gaulliste.
J'ai toujours été. Si vous m'aviez fait l'amitié de lire les ouvrages que j'ai écrits, vous auriez vu
que vous aviez une passion pour Henri IV et pour François Ier notamment. Je plaisante. Le général de Gaulle à qui on rend hommage aujourd'hui.
Pour le général de Gaulle. Et il y a même des amis à moi qui me l'ont reproché. Alors je pense que qu'est-ce qu'il y a de marquant dans cette figure contemporaine historique? Ce qu'il y a de marquant, c'est que il a refusé la fatalité. Et que ceci est une question qui se pose tous les jours à tous les gouvernants et à tous les citoyens. Est-ce qu'on accepte que le poids des choses soit si lourd qu'il n'y a plus qu'à baisser les bras, à essayer de s'en accommoder et au fond de collaborer comme on peut, en sauvant ce qu'on peut sauver de l'affaissement du pays ? C'est une question qui se pose tous les jours. Et en effet, ce qu'apporte la figure du général de Gaulle, c'est de dire nous ne devons pas accepter cette fatalité de l'effacement, de l'effondrement et de la faiblesse. On doit porter une autre vision de l'avenir autour de laquelle se mobiliseront les âmes fortes, on va dire, hein, les courages prêts à agir. Et oui. Ceci est le message, et c'est un message, il n'y a pas de message plus actuel que celui-là. C'est pas un message politique, j'allais dire, c'est un, c'est un message de femme et d'homme qui choisit son destin, qui va écrire sa propre histoire et sa destinée.
On a compris donc l'hommage au général de Gaulle. Françoise Fressoz, il nous reste 5 minutes. Françoise Fressoz, une réponse courte, puis Nathalie Saint-Cricq.
Vous parliez tout à l'heure d'une immense crise économique, immense crise sociale et peut-être immense crise démocratique. Est-ce que vous pensez que les Français, en sortie de confinement, ont le sentiment que la situation est aussi grave que celle que vous dites ?
François Bayrou.
Probablement pas, parce que l'espèce humaine, elle croit toujours que ça va s'arranger et qu'on va sans difficulté reprendre les choses où on les avait laissées. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que si vous... Alors, en plus, il y a un paradoxe incroyable dans tout ça, c'est que l'humanité avait construit un réseau inouï d'échanges matériels, financiers, numériques, et que c'est la plus petite parcelle du vivant, c'est-à-dire un virus qui fait quelques fractions de millièmes de millimètre, qui est venu mettre le grain de sable, et à côté d'un virus, le grain de sable est un géant, le grain de sable dans cette immense organisation, et que tous les rouages ont craqué. Nous avons à les reconstruire. C'est beaucoup plus dur de reconstruire que de poursuivre. C'est un immense défi. Il va falloir des caractères et de l'imagination et une volonté sans faille pour le faire.
Donc, et des sacrifices
Des efforts. Je ne sais pas.
Justement, Nathalie Saint-Cricq.
À propos de défis, de volonté de faire, il y a quelqu'un dont la cote de popularité est en train de grimper, c'est celle d'Édouard Philippe. Il est plus haut de 9 mois dans l'IFOP que Macron. Est-ce que ça le rend intouchable pour la suite ? Et où est-ce que vous considérez qu'il faut un grand remaniement pour l'acte 3, l'acte 4 et la suite ? Ou tout ça c'est du... Évidemment, vous n'allez pas me répondre, mais j'ai tenté quand même.
Mais je vais vous dire, parce que évidemment, les analyses de journalistes, de la plupart des gens qui discutent de politique, elles vont toujours dans le même sens. Moi, j'ai une idée simple. La division est mortelle.
D'accord.
Comme vous savez, je l'ai toujours dit dans ma famille politique. Je l'ai toujours dit la démocratie française. Je l'ai toujours dit en critiquant l'affrontement stupide entre guillemets droite contre entre guillemets gauche. Toujours dit qu'il y avait là une impasse. Et c'est pas d'aujourd'hui, parce que si vous reprenez l'écriture, il y a un texte magnifique qui dit « Toute demeure divisée contre elle-même périra ». Ça a 2500 ans. Et c'est la vérité la plus certaine. Et donc,
Un grand ramassis d'Union nationale en mettant tout le monde pour...
Pas du tout, parce que ça, les ramassis de gens qui sont en désaccord entre eux, je suis persuadé qu'on ne peut rien faire comme ça. Mais on ne doit pas aborder les problèmes dans la... Dans la recherche d'opposition artificielle ou exagérée entre les gens. Naturellement, il y a assez souvent, dans la vie politique, comme dans la vie tout court, comme dans les associations et comme même dans les familles, il y a assez souvent des agacements.
Oui.
C'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Alors, on en est préservé quand on est à 850 km du lieu du jeu politique, comme j'ai la chance de l'être. Donc là, on est un peu plus cool, comme vous diriez.
Mais cool. C'est une belle conclusion.
Mais la certitude qui est la mienne, c'est que si on accepte la division ou si on la recherche, à ce moment-là, on se condamne à mort. On l'a vu à d'autres époques, avec d'autres partis,
oui.
Et je recommande qu'on ne l'oublie pas.
Merci François Bayrou, ce sont les derniers mots. Bon dimanche, merci d'avoir accepté l'invitation de Questions Politiques ce dimanche. Merci à Alexandre Gilardi, à toutes les équipes. Rendez-vous dimanche prochain.